Eschatologie et prophétie. Une série d'émissions proposées par le Père François Dominique de la communauté des Capucins de Bastia.
Chers amis auditeurs, heureux de nous retrouver pour notre émission hebdomadaire Eschatologie et prophétie. Nous poursuivons notre émission sur ce thème que nous avons déjà abordé dans les dernières émissions, les fins dernières. Et nous appuyons sur le livre du frère Philippe-Marie Margelidon, père dominicain et professeur de théologie à la faculté théologique de l'Institut catholique de Toulouse. Il est également le directeur de la revue Thomiste et il enseigne à l'Institut Saint-Thomas d'Aquin et dirige le studium de théologie des dominicains de la province de Toulouse. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pourrez vous procurer ce livre, « Les fins dernières », Philippe-Marie Margelidon, aux éditions Artege. Ce thème donc est très important pour nous, puisque eh bien, il concerne les fins dernières, c'est-à-dire ou les réalités futures vers lesquelles nous cheminons, et donc en elles eh bien, constitue toute l'espérance chrétienne, l'espérance du ciel tout d'abord, l'espérance de la victoire du Christ ressuscité, qui eh bien, nous donne en héritage aussi sa propre résurrection et sa gloire. Et eh bien, c'est pourquoi c'est important ? Parce que, comme on l'a déjà dit dans les dernières émissions, ce thème fait partie des vérités à croire. Vous savez que dans la foi catholique, nous devons croire à certaines choses pour être vraiment dans la foi catholique. C'est ce qu'on appelle donc les vérités à croire ou le credo que l'on récite à la messe du dimanche, mais c'est bien d'approfondir justement quelles sont ces vérités. Et le catéchisme de l'Église catholique nous aide pour cela, justement, puisqu'il y a tout un commentaire dans la première partie du catéchisme sur ces vérités à croire, ce commentaire du credo. En ce qui concerne donc les fins dernières, ça correspond donc au 12e article du credo « Je crois à la vie éternelle » à partir du numéro 1020 et suivant dans le catéchisme de l'Église catholique. Vous pourrez aussi reprendre peut-être la lecture aussi sur ces thèmes. Donc c'est très important pour nous parce que aujourd'hui, voilà, nous sommes confrontés à beaucoup d'opinions autour de nous sur la vie future, sur la vie éternelle. Est-ce qu'il y a vraiment une vie éternelle? Est-ce qu'il y a une résurrection? Pourquoi il n'y aurait pas une réincarnation, etc. En quoi consiste la vie après la mort? Donc, ce sont des questions auxquelles nous sommes aussi confrontés dans notre vie spirituelle et chrétienne. Donc, comme chrétiens, nous avons des réponses qui nous sont données par l'Église, et donc l'Église, elle puise aussi sa doctrine dans la parole de Dieu, la Sainte Écriture, et aussi le magistère, tout l'enseignement de l'Église au cours des siècles. Encore une fois, donc, nous n'avons pas la liberté de croire ou ne pas croire à ces vérités, puisque ce sont des vérités qui font partie du symbole de la foi catholique. Donc nous devons croire à ces vérités pour être catholiques. Si nous ne croyons plus aux dogmes de l'Église, eh bien, nous ne sommes plus catholiques. Nous pouvons rester croyants, nous pouvons même rester chrétiens, mais nous ne pouvons plus nous dire vraiment catholiques. On n'est plus en communion avec l'Église catholique. Donc ça, c'est très important. Et surtout, voilà, encore une fois, par rapport à ces points de doctrine sur les fins dernières en ce qui concerne l'existence du ciel, du purgatoire, de l'enfer, du jugement, le jugement dernier, le jugement particulier, etc. Donc voilà, l'avantage de ce livre, eh bien, il a été écrit justement dans cette optique. Nous avons lu dans l'émission de la semaine dernière l'introduction qui rappelle le contexte actuel que je viens de citer brièvement, mais qui est quand même un contexte où il y a un défi pour notre foi, eh bien, grâce à cela, bien, nous allons, à travers ces émissions, à travers l'aide aussi bien, de cette réflexion sur ces données de foi, approfondir notre foi dans la résurrection et aussi notre foi dans ces réalités futures qui nous attendent. Thank you. Alors prenons en main notre livre. Ce livre donc est composé de 6 chapitres qui s'articulent donc sur ces vérités de la foi dans les fins dernières. Tout d'abord, le premier chapitre traite de la résurrection du Christ, de la résurrection du Christ à la fin de l'histoire. Donc on pourrait dire que c'est tout le temps aussi de l'Église sur la terre, notre cheminement de sur terre, donc dans la foi, vers ce terme de l'histoire. Jésus est l'alpha et l'oméga, donc il y a aussi un terme. Chapitre 2, la mort et le salut dans le Christ. Chapitre 3, du jugement particulier au jugement général. Chapitre 4, de la vie de l'âme séparée à la vision de Dieu. Donc on pourrait dire que c'est le ciel, la béatitude, qui concerne notre âme, mais aussi qui concernera à la fin des temps même notre corps. Chapitre 5, le purgatoire avant la vision bienheureuse. Chapitre 6, l'enfer et la damnation éternelle. Bien, prenons tout de suite au chapitre 1, la résurrection du Christ et la fin de l'histoire. Le Christ Jésus a prêché l'avènement du royaume, l'avènement de l'Église, qui est la fin de toutes choses. Il n'y a qu'un seul royaume dans le temps et au-delà du temps. Il n'y a pas le royaume des vivants et le royaume des morts. Il n'y a que le royaume de Dieu, vivant ou mort, et nous sommes dedans. Nous sommes des membres et des héritiers de ce royaume. Par la grâce, par notre adoption filiale dans le baptême, le Christ est lui-même prémisse de ce royaume de grâce et de gloire. De même qu'il n'y a qu'une seule Église, il n'y a qu'un seul royaume. Il y a une seule Église qui est l'Église du Christ. Et donc dans l'Église du Christ, il y a l'Église triomphante, l'Église des saints qui sont déjà dans la gloire de Dieu avec le Christ. Il y a l'Église pérégrinante, comme on dit, c'est-à-dire l'Église de la terre. C'est donc c'est le peuple des baptisés qui chemine vers l'entrée dans le ciel. Et puis l'Église purgante, ou l'Église donc en état de purification, qu'on appelle aussi le purgatoire, pour laquelle aussi nous prions particulièrement dans ce mois de novembre, mais aussi durant toute l'année, puisque nous sommes appelés aussi à associer notre prière à la prière pour les âmes du purgatoire. Donc il n'y a qu'une seule réalité, il n'y a qu'un seul royaume. Tout cela constitue le mystère de l'Église à travers ces différents états. Le Christ ressuscité est l'univers du royaume de Dieu. En effet, le Christ Jésus, le Fils de Dieu, le Verbe incarné, est présenté dans les évangiles synoptiques comme le prophète eschatologique du royaume. Il l'annonce et le proclame à différentes reprises sous différentes formes. Son avènement est proche. Et d'une certaine manière, il est déjà commencé. Il commence en lui et par lui, le Fils de l'homme. Il est déjà là, il le constitue autour de lui, ses disciples, plus précisément ses apôtres, qu'il a choisis avec Pierre, Jacques et Jean, ses témoins privilégiés. Pierre le premier, à qui il remet les clés du royaume, qu'il institue comme pasteur pour paître les brebis de son troupeau, l'Église. Ce royaume, dans sa substance, a commencé dans le Christ, mais il aura sa forme parfaite et définitive dans cet au-delà de la mort. Si notre vie chrétienne, dans son actuelle condition charnelle et terrestre, est une réalisation imparfaite encore, et encore commençante de la vie éternelle, du royaume de Dieu, elle trouvera sa perfection par l'ultime avènement du Christ, sa parousie. En effet, ça rejoint toutes les paroles de saint Paul et de saint Jean aussi, qui nous dit que nous sommes dans cet état intermédiaire, on pourrait dire. Comme dit saint Paul, nous voyons encore comme dans un miroir, mais lorsque nous serons réunis à lui, alors nous le verrons tel qu'il est. Alors il n'y aura plus le miroir de la foi, nous le verrons et nous entrerons pleinement dans la vision de Dieu face à face. Le mystère du salut fondé sur l'avènement de Jésus, mort et ressuscité, est tout entier orienté vers l'avenir, vers l'ultime réalité. La fin a été anticipée pour une part par la résurrection du Christ d'entre les morts. En effet, si Jésus est ressuscité, c'est déjà la fin du monde, on pourrait dire, la fin de ce monde. Il est prémisse de ceux qui se sont endormis, comme le dit saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 20. En lui et par lui, la fin des temps est donc devenue proche. Dire que la fin de l'histoire est anticipée dans la résurrection de Jésus, c'est dire que le monde et son histoire n'iront pas à la catastrophe universelle ou à la perdition générale, comme malheureusement nous l'entendons souvent quand nous parlons de la fin du monde. Or, la vie qui nous est promise, nous en avons par l'Esprit et dans l'Église déjà les arts. Nous pouvons en goûter déjà la réalité, les prémices. Entre le mystère du Christ vécu aujourd'hui par la grâce et le mystère du Christ en gloire, où Dieu sera manifesté tout en tous, il n'y a pas de différence essentielle. Il y a toute la distance entre ce qui est en cours d'accomplissement et ce qui est accompli. Quand on parle du royaume, c'est ce fameux royaume qui est déjà là et encore à venir. Nous lisons dans les Actes des Apôtres ce récit où Pierre en appelle au fait que le Christ n'a pas été abandonné au séjour des morts et que sa chair n'a pas connu la décomposition. Le tombeau vide est le signe annonciateur du retournement eschatologique du monde. Il nous dit que la figure actuelle de ce monde n'a pas sa finalité dans la destruction et dans la mort. La loi de la corruption n'a pas le dernier mot de la condition humaine, car la résurrection de Jésus est en quelque sorte le signe, et comme on pourrait dire une ultime parabole en acte, de ce que doit être notre résurrection. Saint Paul le dira, eh bien, tel que le Christ est ressuscité, nous aussi nous ressusciterons avec lui. La résurrection de Jésus préfigure alors l'état définitif de l'humanité rachetée par lui et l'état définitif du cosmos à la fin des temps. Alors devant cette réalité, nous pouvons nous aussi nous arrêter un instant et voir que, eh bien, le propre de la foi chrétienne, justement, c'est de vivre de ce mystère de la victoire du Christ qui est acquise une fois pour toutes et qui nous est déjà donnée. Et cette victoire du Christ, eh bien, c'est la victoire sur la mort en ce qui concerne notre salut, mais c'est aussi la résurrection qui nous est déjà donnée, qui nous est déjà acquise. Et donc, qui n'est pas encore en acte, sera en acte au moment de la fin des temps, justement, quand il reviendra dans la gloire. Et là, la parole de Dieu est claire, elle nous dit que les morts ressusciteront, tous, nous le verrons plus tard. Et nous participerons, notre corps participera à l'état de gloire de notre âme. Et un prémisse qui nous est déjà donné, bien sûr, c'est là aussi un dogme de foi, maintenant de l'Église, pour qu'on soit vraiment dans l'Église catholique. Eh bien, nous croyons que la Vierge Marie est au ciel avec son âme et son corps, prémisse aussi de toute l'humanité qui est appelée à être glorifiée même dans son corps. Donc, la Vierge Marie qui est au ciel avec son corps et son âme, eh bien, elle nous annonce déjà cet état futur qui est le nôtre, vers lequel aussi nous allons. Donc nous voyons qu'il n'y a pas de place pour une réincarnation. Parce que le mystère de l'incarnation, il touche aussi notre personne humaine. Dans le sens où notre âme, qui est créée par Dieu directement, a été incarnée, on pourrait dire, dans un corps qui est le nôtre, et c'est pas un autre corps qui doit porter, que cette âme doit porter, c'est notre corps. Elle a été donc incarnée dans notre corps. Et elle est le principe de vie qui anime notre corps. Et quelque part, hein, Dieu l'a créée pour ça. Et donc, la glorification de notre âme, puisque l'âme est immortelle en elle-même, hein, c'est la partie spirituelle de l'homme, immortelle, puisque notre âme est appelée aussi à la glorification, eh bien, et qu'elle est créée pour le corps, notre corps aussi doit participer à la gloire. C'est aussi voilà, toute la thèse qu'a développée saint Thomas d'Aquin quand il parle justement de ce thème de la résurrection. Il dit qu'il y a une raison de convenance, hein, que notre âme eh bien, appelle quelque part la résurrection aussi de notre corps, parce que et c'est dans notre corps que nous ressusciterons. Bien que nous ayons dit tout cela, eh bien, autour de nous, nous voyons que notre monde est déjà sous l'emprise aussi du Christ ressuscité. Il est habité et mu par sa puissance universelle de grâce. Cette puissance par laquelle il peut se soumettre toutes choses, dit saint Paul dans la lettre aux Philippiens. Son humanité glorieuse est associée aux œuvres de la divinité. Elle est le parfait actuel instrument universel pour ressaisir l'œuvre de la création et la renouveler. La création tout entière aspire à la gloire des enfants de Dieu, dit saint Paul. Alors là, c'est mystérieux, évidemment. Hein, on ne sait pas en quoi et comment sera renouvelé et participera aussi même toute la création. Mais ça nous est vraiment affirmé par la Sainte Écriture et par le magistère aussi de l'Église. Donc le chapitre 677, je pense, du catéchisme de l'Église catholique, si je ne me trompe pas, hein, eh bien, traite aussi de cela. Et nous le retrouvons aussi dans les numéros 1020 et suivants, quand il parle aussi de la résurrection, hein, de la vie éternelle. Le catéchisme nous dit explicitement, hein, que eh bien, le cosmos lui aussi participera, hein, à la gloire de Dieu. L'humanité glorifiée du Christ est l'instrument de la communication de la grâce et l'envoi de l'Esprit-Saint à tous les hommes. Sa chair est devenue, selon le mot de saint Cyril d'Alexandrie, chair vivifiante. Par elle, le Christ agit au plus intime de nous-mêmes. Cette influence, saint Thomas ne la limite pas aux hommes, mais l'étend aussi aux anges. Il écrit, citant saint Augustin, que l'âme du Christ régissait toute chose, et elle qui est au-dessus de toute créature. C'est par la médiation de son humanité que la toute-puissance divine transformera l'univers au dernier jour, ressaisissant l'œuvre de la création pour en faire le cadre et le prolongement du royaume de Dieu. Mais cela est remis au dernier jour avec la résurrection de la chair. De fait, l'univers matériel et temporel n'est pas encore transformé par la résurrection du Christ. Nous voyons, même si le Christ est ressuscité, eh bien, nous sommes encore, on pourrait dire, voilà, sous la loi du péché. Même si il y a la loi de la grâce qui est victorieuse, mais il y a aussi une loi du péché en nous. C'est le péché originel qui demeure malgré la résurrection du Christ, malgré la grâce que le Christ nous a donnée de sa victoire. Aussi, notre nature, encore aujourd'hui, gémit, nous dit saint Paul. Hein. Il y a comme une insatisfaction, on pourrait dire, une attente du monde de la résurrection, du ressuscité déjà présent et vivant au cœur de son Église. Certes, il œuvre, et constamment même, pour que déjà le monde change et que pour qu'il commence à être le royaume de Dieu. Vous savez, c'était cette affirmation aussi du pape Jean-Paul II, hein, on pourrait dire même qu'il avait cette fixation spirituelle, hein, de nous inviter à être, hein, la civilisation de l'amour, hein, à construire cette civilisation de l'amour. Hein. Donc, Voilà, ça montre que bien toute la civilisation, toute la création aspire à être dans la pleine communion avec le Seigneur. Et déjà, nous devons nous employer à ce que, eh bien, l'amour de Dieu triomphe au cœur de ce monde. Mais c'est avant tout par les hommes sanctifiés par le Christ qu'il habite et éclaire le monde. Nous voyons dans le visage de sainteté que nous donnent aussi les saints, que nous donne l'Église à travers les saints. Nous voyons eh bien, que déjà le Christ est victorieux et qu'il nous montre à travers ces hommes et ces femmes, ces saints que nous aimons et que nous vénérons, eh bien, cette victoire de l'amour qui triomphe sur les ténèbres. C'est vraiment la victoire de la lumière sur les ténèbres. En tout cela, le Christ ressuscité aussi se manifeste au monde et gouverne notre monde. Mais il n'en fait pas encore le monde de la résurrection. La marque du Christ ressuscité se reconnaît à tout ce qui, dans le cours des choses, contribue positivement à l'avènement des enfants de Dieu, des fils bien-aimés du Père. C'est pourquoi tout ce qui est disposition et ouverture à la grâce du Christ, tout ce qui porte la marque de la vérité et de l'amour, vient du Christ et dispose lointainement ou prochainement au monde nouveau de la résurrection. L'humanité ne semble que faiblement changée malgré les événements de l'incarnation de Dieu, de sa mort et de sa rédemption. Donc c'est bien ce que nous avons dit et ce que nous pouvons malheureusement constater au cours de nous, malgré que le Christ est venu, malgré qu'il nous ait annoncé la bonne nouvelle du salut, qu'il nous ait invité à être des artisans de paix au cœur de ce monde, malgré qu'il a triomphé aussi de la mort et du péché. Bien, nous voyons que cette humanité voilà, est encore aux prises des ténèbres, quelque part. Il n'y a pas encore vraiment le changement de gloire qui est là. Mais nous y tendons, évidemment. Elle n'a pas été changée tout d'un coup. Celle-ci, dans son histoire, reste bien humaine, trop humaine, sous l'emprise des passions humaines collectives et individuelles, des projets idéologiques et des réalisations politiques, parfois aberrantes. L'histoire des hommes porte encore la marque du péché et de la chute, plus que de la grâce et du rachat. C'est pourquoi le combat du Christ vérité et vie, contre l'erreur et la mort, de la lumière et des ténèbres, continue dans l'histoire et dans le monde. Le Christ est Seigneur, parce qu'il est le centre de l'histoire du salut. Or, c'est une thèse fondamentale du Nouveau Testament que cette seigneurie du Christ relativise toute l'activité humaine, dans la mesure où celle-ci n'a de sens et de valeur que dans son ordination au Christ à la fin des temps et à Dieu au-delà du temps. Il n'est pas étonnant que le radicalisme évangélique ait pu prendre la forme d'un mépris de ce monde. Mais ce mépris pratique ne signifie pas que les réalités du monde terrestre, que l'histoire humaine des cultures et des civilisations sont méprisables. Au contraire, c'est Dieu qui a assigné à l'homme des objectifs temporels conformes à sa nature et à sa fin terrestre historique. L'homme ne les réalise qu'imparfaitement, partiellement, jamais définitivement. L'histoire humaine n'est pas un absolu dans lequel il se consumerait et dans laquelle son action individuelle ou collective viendrait à s'achever et à se résoudre. Il n'y a qu'un seul salut, et c'est dans l'histoire que l'homme fait son salut. L'histoire humaine n'est pas directement ordonnée au salut, sa fin temporelle et historique ne débouche pas de soi et par soi dans la vie éternelle. L'histoire est parfois, quelquefois même ambivalente, elle ne progresse pas nécessairement. On parle même des fois de régression. Si progrès il y a dans le bien, elle connaît aussi des périodes de régression morale, politique, culturelle et religieuse. Le temporel et l'éternel sont donc distincts, comme l'éternité et le temps. Mais c'est le même homme qui joue dans l'histoire humaine sa vie temporelle et sa fin éternelle. C'est pourquoi Jésus pourra dire à ses apôtres, « Je vous ai choisi parmi le monde pour que vous soyez dans le monde, mais ne soyez pas du monde. » L'homme est un être historique qui a une double histoire, mais une seule fin supratemporelle, on pourrait dire surnaturelle. En raison de celle-ci, il est engagé dans une autre histoire qu'on appelle l'histoire du salut. Il appartient, comme on pourrait dire, comme à deux sociétés, la société politique et la société ecclésiale, qui ont deux fins différentes, dans la mesure où l'homme temporel joue dans l'histoire humaine sa destinée éternelle. L'histoire du salut et la vie temporelle de l'homme ne coïncident pas, elles se distinguent réellement, mais c'est bien la même personne qui joue son salut ou sa perte éternelle dans le temporel et dans l'histoire. Donc là, c'est très important pour les points que nous allons voir plus tard, puisque notre vie future, justement, eh bien, elle se dessine à travers la vie et les choix que nous posons aujourd'hui. C'est ce que Jésus nous révèle dans le chapitre 25 de saint Matthieu à propos du jugement dernier. « Tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Et chaque fois que vous ne l'avez pas fait, à moi non plus vous ne l'avez pas fait. » Donc nos choix, nos actions, notre charité d'ici-bas ont une dimension d'éternité. Donc quelque part, c'est maintenant que tout se joue, c'est maintenant que tout se construit, et nous construisons notre salut aujourd'hui. C'est pourquoi il est tellement important et que Dieu nous a donné tous les éléments nécessaires pour qu'on puisse vivre de sa grâce aujourd'hui, pour que nous puissions faire ce chemin de sanctification aujourd'hui, pour que nous puissions avoir les moyens du salut aujourd'hui, à travers en particulier les sacrements. Donc on voit que la vie sacramentelle, pour les chrétiens, n'est pas facultative, elle est essentielle. Nous ne pouvons pas vivre comme chrétiens au cœur de ce monde sans vivre des sacrements, qui sont les moyens de la grâce du salut qui nous est donné aujourd'hui. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission, le temps passe très vite, et nous nous retrouverons donc la semaine prochaine pour continuer à approfondir ces réalités qui font notre quotidien, mais aussi vers laquelle aussi nous sommes appelés à tourner le regard avec foi, avec confiance et avec espérance. Rendez-vous donc la semaine prochaine dans notre émission « Eschatologie et prophétie ». Je vous souhaite une bonne semaine à tous et une bonne continuation sur les ondes de votre radio chrétienne.
Eschatologie et prophétie, une série d'émissions proposées par le Père François-Dominique de la communauté des Capucins de Bastia.